Good afternoon, everyone. Bon après-midi à tous. Mon nom est Solange Lefebvre. My name is Solange Lefebvre. I'm chairing the chair at the University of Montreal Religion and Culture and Society. Thank you to McGill University for this wonderful conference and invitation. I will say a few words in English here and there, mais je vais surtout parler français. Avant de vous présenter nos conférenciers qui ont connu Claude Ryan de très près, on m'a demandé de raconter une petite anecdote, puisqu'on est ici pour documenter, se raconter des choses sur la vie spirituelle de Claude Ryan. Monsieur Paul Ryan, son fils qui est ici, je l'ai vu tout à l'heure, il était assis derrière, vient tous les ans à l'Université de Montréal parce que la petite faculté de théologie et de sciences des religions dans laquelle je travaille fait une soirée reconnaissance où on remet des bourses à nos étudiants. Et sur notre site web, Monsieur Paul Ryan raconte comment nous est venu un don de la part de Claude Ryan après sa mort. Il a légué à l'Université de Montréal, son alma mater, une somme d'argent que M. Paul Ryan devait gérer comme liquidateur. Il n'avait pas dédié le don, mais comme la foi était très importante dans sa vie, l'Université de Montréal a pensé suggérer à M. Paul Ryan d'orienter le don vers la faculté de théologie, ce qui fut fait. Et Paul Ryan s'est associé à M. Nathan Shore, grand ami de la famille, qui lui a aussi a mis une petite somme d'argent dans ce don, si bien que nous pouvons donner une bourse annuelle à un étudiant qui travaille sur des questions qui font avancer le dialogue entre juifs et chrétiens. Je le remercie encore une fois au nom de ma faculté, mais vous voyez comment la vie spirituelle de Claude Ryan a eu là un prolongement. Donc, nous célébrons son nom tous les ans, puisque c'est la bourse Claude Ryan Nathan Shore. Alors, je vous présente nos trois panélistes. Pour ne pas interrompre le flot des paroles, qui vont être passionnantes, j'en suis sûre, je vous les présente tous les trois tout de suite. Nous allons commencer par André Fortier. Vous lirez les biographies, mais je veux simplement vous rappeler un petit trait dans la biographie de chacun qui concerne cette grande figure publique québécoise que nous célébrons durant ce colloque. André Fortier a été d'abord tout jeune, il va vous le dire, recherchiste pour Claude Ryan à l'Assemblée nationale, et Claude Ryan le trouvait tellement bon qu'il est devenu directeur de cabinet. Pendant 10 ans, il a couvert une foule de dossiers. Monsieur Jean-Claude Leclerc, lui, a travaillé comme journaliste, comme vous savez, et il a été avec Claude Ryan au Devoir pendant 10 ans. Et il a tenu à me dire tout à l'heure qu'il avait aussi été dans l'Action catholique avec Claude Ryan dans sa jeunesse. Madame Robillard, qui fera la réaction à nos deux présentations, a écrit plusieurs grands livres sur des figures catholiques importantes de notre histoire, et elle a rencontré Claude Ryan à l'occasion de la rédaction de l'une de ses récentes biographies. Elle vous le racontera. Donc, chacun parlera, chacun des deux premiers parleront une quinzaine de minutes, suivi de 10 minutes de réaction, et puis nous aurons un bon moment pour discuter avec la salle. Allez-y, Monsieur Fortier.
Merci, Madame Lefebvre. Alors, bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de cette rencontre, en particulier les gens du Centre Newman et de l'Université McGill, de cette occasion de présenter un éclairage particulier. Comme Madame Lefebvre le soulignait, je ne sais pas si c'est parce que j'étais bon ou si c'est parce que je coûtais pas cher, mais pour lancer M. Proulx, donc en effet, j'ai été embauché à l'âge de 19 ans comme recherchiste au cabinet du chef de l'opposition officielle. Alors, à 20 ans, j'étais le recherchiste de Claude Ryan après qu'il ait démissionné comme chef. Et par la suite, donc à l'âge de 24 ans, il faudra que je dise à Tom Molker qu'il doit juste ajuster ses mathématiques, mais je suis devenu donc son directeur de cabinet. Alors, vous aurez compris que je vous donnerai un éclairage donc de celui qui a connu Claude Ryan, surtout comme politicien. Je ne l'ai pas connu à l'époque du Devoir ni à l'époque de l'Action catholique. Et j'ai eu la chance de voir cette collaboration professionnelle évoluer en amitié et garder le contact avec lui et d'échanger à de nombreuses reprises et de collaborer à ses projets après sa retraite de la vie active, politique active en 94, jusqu'à ce que la maladie y mette fin. Je pourrais dire, j'aimerais dans un premier temps, et M. Proulx y a fait référence tout à l'heure, donc dire quelques mots de la conception que se faisait quand même de l'engagement social et politique des laïcs. Ça aide à comprendre à la fois son approche et beaucoup de ses interventions. Donc on retient de ses textes qu'il accepte sans réserve la séparation de l'État et de l'Église. Il n'affiche aucune nostalgie pour une époque où les autorités religieuses jouaient un rôle déterminant dans toutes les facettes de la société civile et reconnaît d'emblée que la politique, dans une société démocratique et pluraliste, n'est pas propice au prosélytisme. De manière constante, Claude Ryan souligne qu'il incombe aux croyants, sauf circonstances exceptionnelles, de s'engager dans les affaires de la cité selon ses capacités et en fonction de ses obligations familiales et professionnelles. Cette personne doit s'engager auprès de ses proches et dans son milieu avec, pour toile de fond, le respect des libertés fondamentales et la justice sociale. À ce sujet, c'est sans contredit l'engagement à édifier une société plus juste qui prime chez lui. De manière plus immédiate, le croyant doit respecter les institutions et les lois. Il s'informera des enjeux de la cité et y exercera son droit de vote librement et judicieusement. Il pourra s'engager plus avant en participant à la vie des partis politiques et, s'il y est appelé, en présentant sa candidature pour servir au sein des institutions politiques. S'inspirant de l'enseignement social de l'Église, il n'hésite pas à affirmer que l'engagement politique est, après le service de la religion pour une personne croyante, la forme d'action la plus importante. Alors, comment s'est traduit de manière concrète cet engagement? Il ne m'appartient pas de donner une réponse définitive, mais peut-être quelques éléments qui, j'ose l'espérer, sauront vous intéresser. Tout d'abord, la politique active devait lui enseigner de manière sévère que le langage à connotation religieuse et moralisatrice n'est pas accueilli avec ouverture et charité lorsque manié par les politiciens en général et dans son cas en particulier. Alors, certaines maladresses, dont le guide du candidat et la fameuse référence à la main de Dieu, sont suffisamment connues pour qu'il ne soit pas nécessaire d'insister. Mais il indiqua à ce sujet, notamment quelques années plus tard, que sans renoncer à sa croyance profonde en la présence de Dieu dans nos vies, il dut trouver à l'exprimer en des termes moins provocants. À plusieurs reprises, lors des trajets en voiture, des discussions plus détendues au bureau ou lors d'appels téléphoniques, très tard en soirée, jusqu'à 2 heures du matin, c'était pas rare, il confiait, lorsque des questions d'actualité touchant la question ou la vie de l'Église captaient son attention, regretter la liberté d'expression dont il bénéficiait antérieurement, notamment au Devoir, pour s'exprimer publiquement sur ces enjeux. En fait, les interventions publiques de cette nature furent par la suite plutôt rares tout au long de son mandat de député d'Argenteuil et se retrouve surtout devant des auditoires plus avertis de ces questions où le risque de controverse était moins élevé. Une de ces occasions s'est présentée en 83 alors qu'il accepta une invitation de la faculté de théologie de l'Université de Winnipeg. Entre autres éléments, il formula cette forme d'injonction à l'endroit des croyants. « Faith does not guarantee that one will attain human perfection. » But it is a constant reminder that one should never cease trying to redress and improve one's ways. The believer in the midst of men must avoid any semblance of trying to impose his views or patterns of conduct upon others. But he must not be afraid to appear different and even baffling. If he really models his conduct upon the teachings of the great spiritual masters, it would indeed provoke contradiction. Such witness on the part of religious person is vitally needed in the wild and often immoral world of politics. Mais le laïc chrétien n'est pas le seul destinataire de ces propos. Quelques années plus tard, en 1991, devant la faculté de théologie de l'Université Laval, pour souligner le 100e anniversaire de l'encyclique Rerum Novarum, c'est à Rome qu'il adresse ce qui pourrait paraître comme une admonestation, amicale mais franche, au sujet de la conception du libéralisme que l'on véhiculait, qu'il jugeait par trop générale et abstraite, ainsi qu'en ce qui touche l'évolution de la lecture des enjeux économiques en lien avec la justice sociale. J'ignore quelles répercussions eut cette intervention dans les milieux concernés. mais ce n'était pas un objectif de changement de conduite à court terme que poursuivait Claude Rein. Il était pleinement conscient des difficultés et des tensions auxquelles le clergé est confronté sur ces enjeux. Mais il sentait qu'il était de son devoir, à l'occasion, de faire connaître son opinion et de laisser ensuite le temps faire son œuvre dans les cœurs et les esprits. En fait, il limitait ses interventions sur les questions religieuses autres que celles relevant de ses responsabilités immédiates pour deux raisons précises. Tout d'abord, il lui eut fallu consacrer un temps précieux à l'étude de ces enjeux avant de prendre position et défendre éventuellement ses positions. De tels exercices l'auraient distrait de ses responsabilités premières d'élu et de ministre qu'il accomplissait avec une intensité phénoménale. Il jugeait, ayant décidé de s'engager en politique, qu'il devait être fidèle avant tout à sa conception du devoir de laïc qui consistait à exceller, notamment dans son domaine professionnel. Il se souciait certes des effets sur sa propre réputation qu'auraient pu avoir ses controverses. Il disait qu'on ne voulait pas qu'on le prenne pour un illuminé. Mais ce sont surtout les répercussions négatives à l'encontre du Parti libéral du Québec ou encore à l'encontre de l'Église qu'il ne voulait pas susciter. Le respect envers les institutions, civiles ou religieuses, était profondément ancré dans sa ligne de conduite qu'il s'imposait comme citoyen et comme croyant. La même réserve était présente lors d'entretiens de nature plus privée, sauf en présence de gens de confiance. Par la force des choses, j'ai eu le privilège d'assister à des échanges avec des connaissances ou des amis du domaine religieux. La qualité des propos était impressionnante. Même si je ne disposais pas, comme il s'amusait à le souligner à l'occasion, du bagage pour en apprécier toutes les nuances, surtout dans les premières années de notre collaboration. Je faisais partie de cette génération de jeunes incultes et impies que la société avait produite dans la foulée de la Révolution tranquille. Donc, avec le temps, nos discussions plus personnelles sur ces questions prirent de l'ampleur et de la profondeur, malgré nos divergences de perspectives. J'ai retrouvé plusieurs des traces de la teneur de ces discussions dans les textes et interventions produites à la suite de son retrait de la politique en 1994. Même s'il affirmait de plus en plus souvent vouloir éviter la polémique, il livrait davantage son point de vue sur certains enjeux au fur et à mesure qu'il s'éloignait de l'action politique pour se consacrer davantage à l'étude des questions religieuses et à son enseignement ici au Centre Newman. Je puis témoigner qu'il appréciait au plus haut point l'effort de recherche et de synthèse que lui imposait la préparation de ce qu'il appelait ses leçons sur la doctrine sociale de l'Église, et il appréciait tout autant les échanges avec les étudiants. Alors, il me demanda à l'époque de lire l'ensemble de son ouvrage et de reprendre, comme souvent par le passé, mon rôle de lecteur critique. Malheureusement, nous n'avons pu mener nos échanges à terme. Cependant, cette lecture me permit de mieux comprendre, à la manière d'une image inversée, la portée de l'influence de la doctrine sociale de l'Église sur sa conduite et sur toutes les facettes de sa vie. On retrouve aussi dans ses interventions à titre de député et de ministre plusieurs manifestations de son orientation intellectuelle fondamentale chrétienne. La liste pourrait ici être passablement longue, je me contenterai de l'illustrer de manière impressionniste. Tout d'abord, il eut l'humilité de reconnaître les erreurs commises à ses débuts comme chef de parti et chef de l'opposition officielle et d'adapter sa conduite aux exigences légitimes du monde politique. Cette adaptation impliquait entre autres de collaborer loyalement sous l'autorité de celui qu'il avait remplacé peu de temps auparavant. J'ai eu la chance, en étant son principal collaborateur pour les questions politiques pour ces trois années qui suivirent sa démission comme chef, non seulement de voir cette adaptation de près, mais aussi, dans la mesure de mes moyens, de l'épauler dans cet exercice. Il s'est fait un devoir d'exceller dans toutes les facettes de son rôle d'élu, comme représentant de ses commettants d'Argenteuil, à titre de parlementaire, dans l'opposition et comme membre de la majorité ministérielle, ainsi que comme membre du Conseil des ministres. À ce titre, lors d'une intervention à l'Université Queen's, il jugeait que le parlementaire chrétien se doit d'être au service du bien commun et de prendre fait et cause pour les membres les plus faibles de la société. Il décrivait comme suit la responsabilité du législateur qui en découle. Most of the time, however, the best possible outcome in view of all the views and interests which must be reconciled with be a compromise solution. According to St. Thomas Aquinas, laws are not made for perfect beings. They are rather made to be observed by imperfect beings. A rather imperfect law will often have a better chance of being obeyed than a more perfect one, which would reflect the elitist views of a narrow segment of the population. C'est aussi en raison de son engagement comme chrétien qu'il insistait pour introduire, dans certaines lois ou certains programmes à portée sociale, des mécanismes permettant des interventions discrétionnaires, non pas arbitraires, pour régler équitablement, dans le respect des finalités de ces lois ou programmes, des situations imprévues ou imparfaitement prises en compte par les dispositions générales. Bien qu'il respectait au plus haut point le travail de la fonction publique, il ne manquait pas d'être agacé, voire irrité, par l'insensibilité bureaucratique face aux difficultés réelles des personnes. Il y voyait là une question de justice sociale immédiate et concrète qui nécessitait l'attention quotidienne tant de l'administration que de l'autorité politique. Au cabinet, nous devions accorder autant d'attention aux dossiers individuels qu'aux grands enjeux politiques. Merci. Alors, il croyait aussi qu'il incombait aux décideurs de réparer les injustices passées. C'est pourquoi, par exemple, il a activement œuvré pour trouver une solution équitable et honorable aux conditions de retraite inacceptables découlant de l'application d'une décision du gouvernement Lesage prise à la suite d'une demande des autorités religieuses visant les enseignants ex-religieux sécularisés après 1965. Pour Claude Ryan, le règlement du problème posé par les élèves ayant illégalement fréquenté l'école anglaise ou encore le rapprochement avec les communautés autochtones impliquées dans les événements d'Oka ne pouvait reposer sur l'application froide de la raison d'État. Par-delà les situations à la source des difficultés, toute solution pacifique, acceptable et durable de ce genre de conflit passe inévitablement par un effort réciproque de compréhension et de réconciliation. Il n'hésita pas à faire usage de toute l'influence nécessaire pour infléchir dans cette direction, lorsque requis, l'action du gouvernement. Nous pourrions aborder les questions touchant les questions de commission scolaire linguistique qui ont été évoquées par M. Proulx, mais je passerai par-dessus ces questions, peut-être pourront y revenir un peu plus tard. J'aimerais terminer en évoquant deux éléments. Peut-être que d'autres questions aussi pourraient être explorées, en particulier les rapports entre Claude Ryan et le clergé au cours de cette période. Mais le temps et le matériau ne le permettent pas ici. Pour ce que j'en ai perçu pendant les années où j'ai côtoyé Claude Ryan, ces rapports étaient pour le moins complexes, assurément distants et discrets. Une anecdote mérite peut-être d'être évoquée ici. Très tôt après notre arrivée au ministère de l'Éducation, le sous-ministre insistait auprès du ministre et du directeur de cabinet par le fait même pour qu'il fixe à l'agenda une rencontre de courtoisie avec l'archevêque de Québec. Les raisons de cette insistance et de la rencontre n'étaient pas très, très claires non plus. Alors, le sous-ministre comprit rapidement deux ou trois choses de la réponse directe qu'il finit par obtenir. Alors, du regard par-dessus ses lunettes qu'on lui connaissait, et avec son ton de voix incisif caractéristique, le ministre indiqua au sous-ministre qu'il n'appréciait pas se faire dicter son emploi du temps, qu'il avait d'autres chats à fouetter que de se rapporter à l'archevêché, qu'une rencontre pouvait peut-être être organisée si jamais le besoin se faisait sentir, et qu'entre-temps, Mgr Vachon savait très bien où il logeait sur les questions d'intérêt pour le clergé. Alors, certes, il accordait beaucoup d'importance aux positions officielles et officieuses des autorités ecclésiales dans les questions les touchant directement. Mais il était soucieux, vraisemblablement en raison de son passé et de son tempérament farouchement indépendant, de ne pas paraître inféodé au clergé, tout comme il ne voulait ni user, ni paraître usé de son influence pour obtenir de la part des autorités religieuses des positions conformes à ses attentes. En terminant, je soulignerai que l'engagement de Claude Ryan dans la société revêt un caractère unique, complexe, marqué par une pensée chrétienne dense et subtile, ainsi que par une volonté d'action au service du bien commun et de la justice sociale. Il aimait répéter, en diverses circonstances, paraphrasant le cardinal Newman, qu'il obéissait avant tout à sa conscience et que s'il devait être contraint à des choix politiques incompatibles, il se disait prêt à affronter les conséquences. Et il résumait ce dilemme de manière lapidaire, « Ready to stay, ready to leave ». Merci.
Merci infiniment pour ce beau témoignage. Monsieur Jean-Claude Leclerc, allez-y.
Quand j'ai connu Ryan à la fin des années 50, alors que j'étais dans la JSC et lui secrétaire national de l'Action catholique canadienne, Ryan vraiment était un héros pour la jeunesse catholique de cette époque. Mais quand je suis rentré au devoir en 67, les choses déjà avaient clairement changé. Pour moi, il était clair que Ryan était détesté par les laïcistes parce qu'il était catholique, et il était quasiment détesté par beaucoup de nationalistes parce qu'on le jugeait traître à la nation. Alors, si on m'avait à cette époque posé la question, parce qu'il y avait déjà une légende qui courait sur lui, « Mais comment fais-tu pour travailler avec ce type-là? » Parce que j'ai été 10 ans à l'équipe éditoriale avec lui. J'aurais pu répondre, « Ah, c'est très dur. » Surtout aux réunions éditoriales. « Ah oui, la langue de travail. » « Non. » « Oui, 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 c'est bilingue. » « Français et latin. » De l'intérieur, donc, je savais que Claude Ryan était un croyant authentique, non pas un pratiquant sociologique. Mais bien avant d'être affronté à la société laïque du Québec moderne, il avait dû s'affranchir d'une autre société que je connaissais bien aussi, la société catholique d'avant la Révolution tranquille. Son maître spirituel avait été John Henry Newman, mais c'est au temps du père Georges-Henri Lévesque qu'il apprend à séparer le temporel du spirituel, comme on dit alors, et à ne plus tenir un Québec confessionnel mur à mur pour une société adulte, éduquée et responsable. À l'Action catholique, son défi fut d'éveiller la foi et la liberté dans une chrétienté ritualiste et autoritaire. Une sécularisation tranquille du Québec laissait voir alors toute une religiosité superficielle. Claude Ryan doit donc compter avec les résistances d'évêques et de mouvements conservateurs qui garde les catholiques dans une sorte d'infantilisme religieux et autres. Petit souvenir, alors qu'il est secrétaire national de l'Action catholique canadienne, je le rencontre pour une des premières fois, et je l'entends déplorer, à ma grande surprise, et chez lui avec une liberté totale, le peu de culture religieuse du clergé de Montréal. Il n'était pas anticléricaliste, parce que le même jugement, je l'entendrai chez lui, alors qu'il est devenu directeur du Devoir, et il se scandalise que les professionnels n'ouvrent guère de livres après leur sortie de l'université. Ça peut expliquer qu'on a de la difficulté à se démêler avec les chartes. Donc, le choc entre le catholicisme de Ryan et la chrétienté en place est fondamental. Car pour l'Action catholique, le monde n'est pas mauvais en soi. Il revient simplement aux chrétiens d'en libérer les forces et les valeurs. C'était tout le sens même de l'Action catholique à l'époque. Ryan croit que les problèmes doivent être étudiés dans le respect de leur spécificité, et non pas à partir d'une révélation qu'on prétend infaillible. Bon. Un syndicat n'a pas à être confessionnel pour défendre la classe ouvrière. Une université, même pontificale, n'a pas besoin de directive épiscopale pour s'acquitter d'une mission d'enseignement. Il en va de même d'un hôpital ou d'un service social. En cela, après tous les changements qu'on a connus, la Révolution tranquille portait bien son nom. Elle ne fit aucun mort. Certes, le catholicisme québécois avait aussi donné naissance à des institutions de presse, comme FIDES, foi. Donc, le nom dit bien l'orientation de l'institution. On sait moins que les autorités religieuses avaient aussi entrepris d'implanter dans toutes les régions du Québec des journaux expressément catholiques. Ce fut un échec. Alors que le Soleil, du Parti libéral, a survécu en devenant un quotidien commercial, le journal L'Action à Québec aussi, appelé L'Action catholique, et dirigé par l'archevêché, a fermé. D'autres quotidiens dirigés par le clergé n'ont pas connu un meilleur sort. Question. Comment Le Devoir allait-il relever le défi de cette mutation? Gérard Filion, son prédécesseur, avait écrit en 1947, au sortir de la Seconde Guerre, que la paix mondiale dépend du retour à l'Évangile, guillemets, fermez les guillemets, et du pape comme seul médiateur impartial. 1947. Pour lui, ce journal, Le Devoir, n'est pas moins valable qu'un autre plus proche des autorités religieuses. Et Filion cite Henri Bourassa pour qui une presse catholique, mais laïque, laïque au sens où on l'entend à l'intérieur de l'Église et non pas au Parti québécois, pour qui une presse catholique laïque a causé, et je cite Henri Bourassa, moins d'embarras à l'Église que les journaux rédigés par des prêtres sous l'autorité personnelle des évêques. Alors, c'est une citation authentique là, du Devoir de l'époque. En 64, quand Ryan succède à Fillion, les journalistes de la rédaction, pour la plupart très peu portés sur la religion, se méfient d'un patron qui provient de l'Action catholique. Leur directeur nomme quand même un reporter à l'information religieuse. Un type qui a mal tourné, un dénommé Jean-Pierre Proulx, qui se traîne encore au Centre Newman. Des journaux comme Le Monde et le New York Times en ont des reporters religieux. Pourquoi Le Devoir prétendrait-il s'en dispenser? Me dit Ryan. Pourtant, en 70, faisant le point sur Le Devoir d'hier et d'aujourd'hui, à l'occasion du 60e anniversaire du journal, Ryan va aller au fond des choses. Les valeurs chrétiennes, écrit-il, sont demeurées l'un des soucis constants de la direction, c'est-à-dire de lui-même. Mais ces valeurs, écrit-il, ont pris des formes plus laïques, au sens où il l'entend. Et là, je cite, il les donne lui-même. Respect de l'autre, défense des libertés fondamentales, souci du dialogue, recherche de la vérité et de l'intégrité. C'est moi qui ai écrit l'éditorial réclamant une enquête sur le saccage de l'abbé James. Je m'excuse du peu de succès que nous avons eu. Et de l'intégrité, donc, et dans les questions proprement religieuses, une résonance plus largement écuménique. Le mot n'est pas très courant à l'époque. Mais il ajoute que cette fidélité à l'inspiration chrétienne ne saurait être imposée. Et je le cite. S'il fallait choisir entre le maintien rigidement imposé de cette fidélité et la poursuite de l'action fondamentale du journal, qui est d'informer et d'alimenter une opinion publique adulte, il faudrait probablement opter pour la seconde voie. Vous reconnaissez la prudence. Il a mis probablement. Mais trompons-nous pas. Il veut bien dire ce qu'il a dit. Cette même année, lors de la crise d'octobre, Ryan n'aura aucune difficulté à trancher entre ses convictions démocratiques et les prétentions du pouvoir fédéral. Mais une plus grande épreuve l'attend. Elle ne viendra pas d'un dilemme entre sa foi chrétienne et son refus du joug de l'Église. Parce qu'il y a des curés qui se sont désabonnés du Devoir, le trouvant pas assez actif, fidèle, pour les objectifs de l'Église comme ils la conçoivent. En 73, le journal confie à sa responsabilité est gravement mise en péril. Après l'élection provinciale par les leaders du Parti québécois, face au quotidien indépendantiste Le Jour, que fera Claude Ryan? Et je me souviens, il m'avait dit, nous serons deux pauvres, eux sur ce côté-là du trottoir, puis nous de l'autre côté de la rue. Il jouait sa vie en même temps que l'avenir du journal. Dans une note interne aux journalistes, 6 février 1974, Ryan écrit qu'une remise à jour des objectifs du Devoir s'impose, en conformité, bien sûr, avec les grandes intentions des fondateurs. Il y annonce un texte pour consultation qui pourrait éventuellement être rendu public. J'ai ce texte-là. Le texte, évidemment, n'a pas pu être rendu public à l'époque. On y trouve toute une liste des positions exprimées par Le Devoir au cours des années précédentes. Il s'inscrit vraiment dans la tradition d'engagement historique du Devoir. Et il y donne quant aux objectifs nationaux, aux institutions politiques, à l'économie, à la vie sociale. Et sur la vie sociale, à la fin, il y a un paragraphe sur la responsabilité du devoir vis-à-vis de la religion, et il écrit « respect positif du pluralisme religieux et philosophique dans la vie publique et les institutions publiques. Attachement, par-delà toute étroitesse confessionnelle, aux valeurs morales et spirituelles du christianisme et respect positif en matière strictement doctrinale et religieuse des enseignements de l'Église catholique. » Henri Bourassa aurait dit « soumission ». Ryan écrit « respect positif ». Cela veut aussi dire « respect véritable, éclairé et critique ». Alors, ce respect ne l'empêchera pas, évidemment, de différer d'opinion avec le magistère catholique à l'occasion sur des questions relatives à l'éducation, à la famille, voire à la morale. Il était à l'avant-garde de l'écuménisme entre les églises chrétiennes. Il avait déjà une ouverture complète vis-à-vis du judaïsme et de la communauté juive ici. Et surtout, il tenait à une opinion publique dans l'Église. Cette liberté d'opinion publique dans l'Église a été longtemps bafouée par la hiérarchie catholique romaine. Elle l'était encore peut-être jusqu'au dernier pape. Et cette liberté est bafouée aussi encore de nos jours dans plus d'une société laïque dite démocratique. Bref, s'il fallait décrire les traits de Claude Ryan que j'ai connu, sinon le legs qu'il a laissé, que j'ai moins investigué, on pourrait le faire en trois mots. Culture contre l'obscurantisme ambiant. Engagement contre l'installation. Et sobriété, c'est-à-dire comme discipline personnelle. Merci.
Merci beaucoup, M. Leclerc. Vous avez donc hérité de cette chronique sur la religion...
Éthique
et ouais, voilà, éthique et culture religieuse, presque, hein, du devoir. Madame Robillard, c'est à vous la réaction, une dizaine de minutes.
Contrairement à M. Fortier-Leclerc, je n'ai pas côtoyé M. Ryan quotidiennement. Je l'ai rencontré à deux reprises. La première fois, en 1975, alors que je préparais ma thèse de doctorat pour l'interroger sur le cardinal Léger, puisque c'était le personnage que j'étudiais pendant la période où il a été archevêque de Montréal. La deuxième fois, c'est en 1985, alors que je ramassais la documentation pour la biographie de Mgr Joseph Charbonneau, qui est parue en septembre, là, qui est une chose faite. Et ces entrevues m'ont permis de découvrir un Claude Ryan, non pas officiel, mais un Claude Ryan spontané. J'ai trouvé chez lui, d'abord, cet homme à l'indépendance d'esprit. C'est un homme épris de justice sociale, puis même de justice tout court. Et puis, un homme convaincu, mais au franc-parler. Un homme de conviction. Ce franc-parler-là, il l'exerçait même à l'endroit de ses patrons qui étaient les évêques, et quand il était de l'Action catholique, en 1945, c'était un jeune homme de 20 ans. Alors, il ne se gênait pas pour dire aux évêques ce qu'il pensait, et pour leur dire, « Vous savez, moi, je suis indépendant. Si vous considérez, » il disait ça, par exemple, au cardinal, à Mgr Léger, quand il est arrivé en 1950, alors que toutes sortes de rumeurs circulaient autour du départ de Mgr Charbonneau, on avait dans les milieux d'Action catholique, on disait dans les milieux d'Action catholique que c'était que Mgr Léger avait été choisi pour venir mettre de l'ordre. Alors les mouvements d'Action catholique qui, sous Mgr Charbonneau, avaient eu une liberté d'esprit, une liberté d'action. Parce que quand il confiait une responsabilité, Mgr Charbonneau, il n'allait pas chercher, il n'allait pas contrôler ensuite. Et j'ai le témoignage, par exemple, de M. Arthur Delorme, à qui Mgr Charbonneau a confié la direction de l'œuvre des vocations. Alors, M. Delhomme va rencontrer Mgr Charbonneau, dit « Monseigneur, voulez-vous me donner des directives? » Il dit « Écoute, je t'ai donné une responsabilité, t'es intelligent, fais ton travail. » Alors, cette attitude était vraiment une attitude qui était appréciée par les mouvements d'action catholique. Et Claude Ryan se trouvait, à cette époque-là, occupait un bureau conjoint avec Gérard Lemieux, qui, lui, était directeur de l'Action catholique diocésaine, alors que M. Ryan était secrétaire de l'Action catholique nationale. Alors, il voyait tout ce qui se passait autour. M. Ryan m'a dit, par exemple, que quand il était étudiant, par rapport à son nationalisme, je vais vous donner ça un peu en vrac, par rapport à son nationalisme, quand il était étudiant, il avait milité avec deux amis au sein du parti CCF. Donc, il était attiré par la dimension sociale de ce parti-là, qui était à l'époque considéré par les évêques comme du socialisme, voire du communisme. Donc, en 1933, les évêques avaient interdit aux catholiques de faire partie du parti CCF en 1933. Monseigneur Charbonneau, qui était prêtre à ce moment-là, qui n'était pas évêque, avait collaboré avec le père Georges-Henri Lévesque, qui était à Ottawa à cette époque-là, dans un comité mis sur pied par les évêques pour étudier le programme du parti CCF. Alors, Georges-Henri Lévesque et Mgr Charbonneau ont été les deux seuls à ne pas accepter qu'on condamne le parti CCF. On disait « laissez la chance aux coureurs », parce que parmi les notes de Mgr Charbonneau, par exemple, il disait « les partis politiques » n'ont pas d'allégeance catholique, les partis politiques conservateurs libéraux, alors que le parti CCF avait une préoccupation sociale, ce qui était dans l'esprit de ces deux hommes-là qui avaient fait des études en sociologie, qui étaient proches de la pensée sociale de l'Église. Et quand il est arrivé, quand on l'a demandé pour travailler en vue de l'Action catholique, il a décidé de couper tous ses liens avec le parti dans lequel il militait. Et avant cette époque-là, André Laurendeau l'avait approché, lui et ses amis, pour leur demander de faire partie du Bloc populaire qui venait d'être créé. Alors Ryan a dit « Non, nous, ça ne nous intéresse pas, c'est trop fermé. On a besoin de quelque chose de plus ouvert. » Donc, l'ouverture d'esprit, c'était une des caractéristiques de Claude Ryan. Et Murray Ballantyne va témoigner que lui, non, c'est-à-dire Monseigneur Murray Ballantyne et Monseigneur Charbonneau, m'a dit Claude Ryan, ont été les deux personnes qui ont été les plus influents auprès des évêques pour les convaincre un peu plus tard de ne pas condamner la participation au parti CCF. Et ils ont eu gain de cause, ils ont tourné autour du pot, mais sans condamner, de sorte qu'on pouvait interpréter, il y a eu une polémique dans les journaux sur le sens à donner aux paroles des évêques, par exemple, alors que chacun pouvait l'interpréter à sa façon. Bon, cet homme ne connaît rien de notre province. C'est ce qu'écrivait dans son journal Monseigneur Philippe Desranleau, l'évêque de Sherbrooke. Il disait ça de Monseigneur Charbonneau. Cet homme est dangereux. Pourquoi? Il oublie que la dualité et la séparation des catholiques et des non-catholiques a été le salut des Canadiens français. Fin de la citation. Inutile de dire que telle n'était pas la conviction de Claude Ryan. Et quand c'est même le mot « dangereux », cet homme est dangereux, c'est ce mot-là que Claude Ryan a utilisé quand il est allé rencontrer Mgr Léger à son arrivée à Montréal en 1950, parce que là, on se demandait ce qui allait se produire. Alors, il est allé voir Mgr Léger, il lui a dit « Vous savez, Mgr, moi, je suis totalement indépendant. Si vous considérez que je suis un gars dangereux, c'est son expression, faites rapport à mes, à l'épiscopat, et puis je vais partir. Soyez sans inquiétude. Mais, ajoute Claude Ryan, comme Mgr Léger était un homme, un remarquable homme d'action, plutôt que de l'éloigner, il allait le consulter régulièrement sur des problèmes sociaux, des problèmes qui l'intéressaient, pour lesquels il sentait bien qu'il manquait de lumière. Une autre chose que Claude Ryan a dit à Mgr Charbonneau, Mgr Léger, il dit, vous savez, il dit quand il est arrivé, il dit, vous vous promenez, hein, de paroisse en paroisse, vous faites toutes sortes de déclarations, vous vous rendez compte que les gens que vous rencontrez, là, c'est toujours le même groupe de femmes qui vous suivent d'une paroisse à l'autre. C'est pas le vrai monde que vous rencontrez. C'est Claude Ryan qui a dit ça à Mgr Léger en 1950. Donc, Claude Ryan avait 25 ans. Bon, Claude... Il va déplorer que la barrière qui s'était élevée autour, à l'arrivée de Mgr Charbonneau, Mgr Charbonneau a été accueilli à Montréal comme un chien dans un jeu de quilles. Mgr Gauthier ne l'aimait pas, les gens, et d'autant plus que Mgr Charbonneau avait été nommé non pas auxiliaire, mais évêque coadjuteur avec droit de succession. Donc, c'est certain qu'après la mort de Mgr Gauthier, qui était le seul évêque qui restait à Montréal, c'est Mgr Charbonneau qui était évêque titulaire. Donc, on l'avait accueilli très froidement. Et quand lui se rendait compte, mais il n'a pas su, et c'est ce que Claude Ryan me disait, parce qu'il était témoin de ce qui se disait dans le dos de Mgr Charbonneau. Il n'a pas pu s'entourer de quelqu'un pour l'appuyer dans ses actions, dans ses déterminations. Parce qu'il avait fait le choix, par exemple, de l'Action catholique spécialisée, au contraire de l'ACJC, qui était l'Action catholique des Jésuites, qui existait depuis 1905 et qui était en perte de vitesse. Donc, les Jésuites voulaient se rattraper en accrochant des bribes pour être capables de retrouver leur pouvoir sur la jeunesse, sur la jeunesse masculine, faut soit dit en passant seulement. Alors, tandis que dans l'Action catholique des mouvements, c'était des garçons et des filles qui faisaient partie du mouvement. C'était vraiment une nouveauté. Et Claude Ryan a regretté qu'il n'avait pas su s'entourer d'un groupe de personnes pour l'appuyer. Il était vraiment un homme seul, et il faut dire que le tempérament de Mgr Charbonneau aussi ne l'aidait pas. Le fait qu'il était mal accueilli ne l'aidait pas. C'est un homme d'une très grande sensibilité, ne l'aidait pas à faire face. Le père Charles-Henri Lévesque, lui, se battait. C'était un batailleur, était capable de se défendre. Pas Mgr Charbonneau. Et il est arrivé à Montréal, dit Ryan, avec une dizaine d'années avant son temps, dans le groupe d'évêques auquel il n'a pas pu s'intégrer parce qu'il incarnait des valeurs nouvelles qui se faisaient jour à travers tout le continent. Alors, il y avait cette conscience chez Claude Ryan que les choses devaient changer. Mais en même temps, il y avait chez lui une sagesse qui lui inspirait de ne pas brusquer les choses. Ainsi, quand Mgr, à un moment donné, Claude Ryan avait des relations avec les gens du YMCA. À un moment donné, un de ses amis du YMCA lui dit, « J'ai rencontré ton patron hier. » Mgr Charbonneau était allé rencontrer au YMCA, rencontrer les gens pour causer avec eux. C'était des protestants. Et Claude Ryan me dit, en me racontant ça, « À l'époque, ça ne se faisait pas. » Il était conscient que il y avait toujours cette précaution qu'il prenait pour que les choses se fassent sans que on heurte les sensibilités des personnes. Alors, au terme de cet entretien, je me rends compte que les deux approches, celles les vôtres m'ont permis de découvrir le même homme, mais sous un angle très différent, mais les mêmes valeurs, finalement, les mêmes convictions, la même indépendance d'esprit, et puis le même souci de respecter l'autre. Merci.
Alors, préparez vos questions, vos commentaires. Nous les prendrons trois à la suite. Hein? C'est toujours, on peut en prendre deux, trois, puis les panélistes peuvent répondre. Et, pour conclure, je vous remercie beaucoup tous les trois. Vous avez été dans les temps. Deux idées clés, moi, me frappent par rapport aux trois présentations. Le mot indépendance, comme vous venez de dire, Madame Robillard. Et dans les débats actuels sur la sphère publique, pour les connaître de très près, je peux vous dire que l'idée la plus difficile actuellement à faire saisir à bien des gens, c'est à quel point la foi religieuse peut s'accompagner d'un esprit indépendant. Cette association est difficile à saisir pour un nombre de plus en plus important de gens. Et la deuxième idée, que j'ai entendue, il y a beaucoup d'évêques dans ces histoires-là, évidemment, qui disent ceci, qui disent cela. J'ai entendu au passage aussi qu'ils se font dire de faire ceci au Québec. Serions-nous au Saint-Siège romain, est-ce que les Gaulois sont à César? Des irréductibles, hein, parce qu'on parle de l'indépendance de Claude Ryan, mais aussi d'un certain catholicisme résistant au Québec à travers cette histoire extraordinaire de cet itinéraire de Claude Ryan. Alors voilà, c'est le temps pour vos questions et commentaires. Brief comments and questions, three in a row, trois à la suite. Allez-y.
Juste un commentaire. J'espère un peu ma voix là. Mais on est sorti d'un Québec assez monolithique. Et aussi un homme qui avait un esprit assez critique, capable de voir autrement. Et je me pose la question si on retombe dans la même chose. Une sorte d'esprit un peu monolithique qui nous impose une sorte de singularité où on ne permet pas justement l'esprit croyant à s'exprimer. Alors je me demande si on ne s'est pas retrouvé un petit peu dans la même situation aujourd'hui. Et ça demandait justement une capacité de permettre une liberté d'expression. Et je me demande justement si c'est un petit peu ce qu'on voit, une sorte d'imposition d'une façon de voir et qui ne permet pas justement à des Claude Ryan de pouvoir s'exprimer aujourd'hui. Voilà un petit peu ma pensée.
Une deuxième question. Another question, comments, please.
Back here. 1, 2,
1. Oui. Alors, justement, par rapport à cette liberté d'expression et tout ça, il y a des distinctions qui doivent être faites par rapport à ce que, par exemple, le magistère romain enseigne comme liberté de penser d'un côté, ou des énoncés qui sont des matières, ou justement l'opinion qui serait contradictoire à l'enseignement officiel de l'Église, serait d'une certaine façon, mettrait la personne qui émettrait cette opinion-là un peu à l'extérieur de l'Église. Alors je me demandais si, dans l'expérience de Claude Ryan, une telle opposition sur des enseignements officiels en matière où est-ce que l'opinion du laïc ou du clergé n'est pas reconnue d'une certaine façon, est-ce que c'est déjà arrivé une situation de contradiction sévère à ce niveau-là? Merci.
Et madame?
Yes, I'll phrase my question in English. It's to Madame Robillard. How strongly did Claude Ryan come out in defense of Monsignor Charbonneau, the lay Catholic movement at that time? How strongly did they support Monsignor Charbonneau against the church in terms of real social democracy, or did they just remain neutral?
Bon, alors les panélistes peuvent répondre. Allez-y.
Moi, ce qui me frappe dans les études que j'ai faites, parce que j'ai toujours voulu aller au fond des choses. J'ai étudié pendant 30 ans l'antisémitisme, puis j'en ai trouvé un avant l'ère chrétienne, du temps des Grecs. Et ce qui me frappe, c'est que l'autre, comme mauvais, comme danger, là, fait partie prenante de la culture occidentale, On a beau changer de langue, changer de gouvernement, changer de religion, cette phobie fondamentale persiste toujours. À mon point de vue, elle est l'ordre d'une sorte de maladie mentale, mais il n'y a pas que des individus qui ont ces traumatismes-là, il y a des cultures également qui en ont. Pour s'en sortir, il faut étudier l'histoire. Et Ryan avait étudié l'histoire à Rome, l'histoire de l'Église. Il savait très bien que ce qu'on tenait pour des dogmes n'en avait pas été pendant des siècles. Et qu'il y avait eu dans l'Église des gens qui contestaient, qui discutaient. De sorte que notre défi, quels que soient les régimes, les partis, les problèmes, c'est de faire prévaloir l'opinion publique, mais pas l'opinion publique définie par en haut, par les autorités, comme une sorte d'impérium intellectuel. Et pour moi, aujourd'hui, ça reste un enjeu majeur contre des médias trop unanimes, trop commercialisés, contre des partis politiques qui développent des machines pour mobiliser les gens comme s'ils étaient des troupeaux. Moi, je trouve que, vraiment, ça reste un enjeu très important. Et pour moi, Ryan était un modèle, parce que, quels que soient les courants, il était là avec sa conscience et avec la culture qu'il avait en profondeur des questions dont on avait à débattre.
J'aimerais ajouter deux éléments, si vous permettez, quant au conflit qu'il pouvait y avoir entre, entre guillemets, le magistère et les positions que Claude Ryan pouvait prendre. Il n'est jamais arrivé où il s'est senti dans une position où il pouvait être en rupture complète entre, son engagement et les positions prises par Rome et les dossiers ou les sujets sur lesquels il y avait à prendre position. On a tendance à oublier que la zone d'intersection entre les valeurs libérales au sens large du terme, son engagement envers la justice sociale et les positions exprimées par l'Église ont pas mal plus en commun qu'en opposition. Et il sentait qu'il pouvait exploiter toute la marge de manœuvre dont il disposait pour exprimer, à l'occasion, soit des divergences, soit tout le moins se sentir assez à l'aise pour prendre des positions qui n'allaient pas dans le sens. Et comme M. Leclerc l'évoquait, il était profondément aussi attaché aux valeurs démocratiques dans une société pluraliste. Et dans son souci à lui, il l'évoquait, entre autres, à l'Université Queen's, c'est pas tellement la décision ou la position prise sur un élément à un moment donné ou à un autre qui compte, c'est le chemin par lequel on y arrive. Si vous avez fait le débat honnête, franc, vous avez considéré les options possibles, vous êtes en mesure de dégager une position qui rallie passablement, à la fois l'opinion publique et les intéressés, dans la société civile, il faut être capable à ce moment-là de se ranger et d'assumer cette décision-là. En lien avec la question d'une société ou d'une forme d'unanimisme ou de pensée unique, M. Leclerc a raison, M. Ryan, c'est un exemple. Et l'exemple, c'est pas tellement dans le propos que dans la capacité de l'exprimer. Alors, si vous avez vous sentez oppressé par une forme de pensée unique, il faut être en mesure d'exprimer d'autres points de vue. Et il appartient à ceux qui partagent pas les points de vue dominants de les exprimer, de les faire valoir. Alors, aujourd'hui, on a encore moins d'excuses. À une certaine époque, ça pouvait être dangereux d'exprimer une opinion contraire à l'autorité. Aujourd'hui, c'est pas dangereux. Le seul danger que vous encourez, c'est de pas être entendu.
Oh, j'aime beaucoup votre question, madame, parce que au moment, je peux vous répondre en français, oui. Au moment où l'annonce a été faite du départ de Mgr Charbonneau, c'était le 8 février, je pense, 1950, un communiqué laconique de la presse canadienne, que Mgr Charbonneau était rendu à Victoria pour un séjour indéterminé. Ça a été, dans la presse canadienne, française, catholique, le silence le plus complet. on s'est contenté de reproduire, aucun commentaire, de reproduire le communiqué. D'autres communiqués sont venus par la suite, on a reproduit les communiqués. Tandis que dans la presse anglophone, la presse anglo-protestante en particulier, on n'avait pas cette espèce de crainte et de retrait. Et alors les journalistes des journaux de Montréal, quand ils ont su que Mgr Charbonneau était à Victoria, le téléphone existait, ils ont téléphoné. Mgr Charbonneau leur a dit qu'il n'était pas malade. Et à une autre journaliste, une deuxième journaliste qui l'a appelé, il dit « Ce n'est pas pour les raisons alléguées, il y a autre chose, mais je ne peux vous en parler. » Alors, c'est à partir de ce moment-là que les journaux anglais ont commencé à émettre l'hypothèse que c'était parce que les prises de position de Mgr Charbonneau pendant la grève de l'amiante. Or, pendant la grève de l'amiante, tous les évêques ont été unanimes à demander qu'on fasse des quêtes dans les paroisses pour venir en aide aux familles des grévistes, non pas pour approuver la grève parce qu'elle était illégale, mais juste, tout le monde reconnaissait ça, mais pour aider les familles. Donc, tous les évêques étaient unanimes. Alors, pourquoi on aurait condamné Mgr Charbonneau et pas les autres évêques? Ça tenait pas debout. Mais c'est l'hypothèse qui a été véhiculée par les journaux anglo-protestants qui connaissaient ni le milieu canadien-français ni le milieu catholique. De sorte que la chose a continué à se dire. Et là, quand Rome a vu ça, Rome a pris peur. Parce que là, c'était la doctrine sociale de l'Église. Alors là, Rome a émis des communiqués disant que ce n'était pas à cause de ses prises de position en faveur des familles des grévistes, mais sans donner de raison.
Et M. Ryan a-t-il réagi de manière...
Pendant ce temps-là, les gens de l'Action catholique n'ont pas davantage réagi officiellement. Claude Ryan, ce qu'il me disait, là, faisait écho à ces rumeurs-là, et la crainte, ils n'étaient pas informés, la crainte que le successeur de Mgr Charbonneau allait mettre la hache dans les initiatives prises par Mgr Charbonneau à Montréal. C'était ça leur peur. Ils n'avaient pas de commentaires à faire parce qu'ils n'étaient pas, ils ne disposaient d'aucune information. Mgr Charbonneau est parti comme un voleur, hein. Il n'y avait que son secrétaire qui était au courant, parce que c'est lui, il a dicté son testament à son secrétaire avant de partir, et il est parti pour Ottawa. Il est revenu ensuite, mais il est parti pour Victoria le 31 janvier. Et c'est après là, qu'on a eu le communiqué. Alors, c'est comme ça que le mythe de l'influence de Duplessis c'est accrédité, c'est le silence des autorités d'abord et ensuite de la presse catholique qui n'était pas informée.
Merci. Où sont les organes? Est-ce qu'on a le temps pour une ou deux autres questions? Une!
Une demi.
Et pas la moindre.
C'est pas s'il y a possibilité. Par l'expérience, par la connaissance que vous avez de Claude Ryan, de dire... Quel est le rôle que Madeleine Ryan a joué dans sa vie? Avez-vous quelque chose à dire là-dessus?
Bonne question.
Je la connaissais parce qu'elle venait d'un mouvement d'action catholique dans un autre milieu. Et puis, il y avait des légendes sur la façon dont ils s'étaient rencontrés et mariés, mais je n'en savais pas davantage et ni l'un ni l'autre ne m'ont fait de confidence. La seule chose que je peux vous dire, c'est que revenant d'une réunion avec Claude Ryan, il avait dit « on va arrêter à la maison, prendre une bouchée ». Et puis là, elle avait fait sauter un steak dans une poêle chaude sur un lit de sel. C'était la première fois que je dégustais un steak aussi aimable et savoureux. Non, je savais que c'était une femme de tête, qui avait ses convictions,
Et je présume que si il y a eu des désaccords sur une question ou pour une autre dans leur ménage, lui comme elle se sentait tout à fait libre d'en parler, parce que entre les hommes et les femmes dans l'Action catholique, il y avait un respect puis une liberté pour discuter de tout. Et on s'est marié entre nous. Moi, j'ai marié une dirigeante de l'Action catholique. D'autres ont fait ça. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas laborieux à l'occasion. Mais les valeurs fondamentales d'égalité puis de respect étaient déjà acquises, là, 50 ans avant les chartes qu'on prétend nous imposer.
Oui, peut-être, une anecdote assez intéressante. Moi, en effet, j'avais l'âge des enfants de M. Ryan. Je vois Paul, puis à l'occasion, je me retrouvais à la table au souper parce que les heures de travail de M. Ryan n'étaient pas très orthodoxes. Alors, on avait souvent à se déplacer. Alors, je me trouvais souvent à la maison et j'étais accueilli comme faisant partie de la famille. Et c'était frappant de voir comment les discussions pouvaient aller, non seulement entre Claude Ryan et Madeleine, mais avec les enfants aussi, c'était assez impressionnant. Il y avait un très grand respect et un très grand souci. Et l'anecdote, donc, lui avait annoncé que pour des raisons familiales, je considérais que c'était important que je quitte le cabinet et que je passe à d'autres choses, compte tenu qu'à un moment donné, si on veut s'occuper des enfants dans un couple, ça prend quelques heures par semaine que je n'avais pas. Et il me dit, bien candidement, il dit, tu fais bien, il dit, Madeleine m'a donné une coupe de call down dans le temps, là, puis des fois, il faut écouter ça. Mais l'élément peut-être le plus frappant, et c'est peut-être plus personnel, c'est dans les dernières semaines de sa vie, Madeleine Ryan. M. Ryan, on était à la maison et elle m'avait demandé de passer la voir pour une dernière discussion. Et je vous dis, bien candidement, c'est la seule fois où j'ai entendu Claude Ryan être vraiment blessé dans ses paroles. Et juste par une petite parole qu'il a lâchée, quand Mme Ryan évoquait sa maladie, il a dit « c'est injuste », sur un ton assez particulier. Et Mme Ryan a dit « Claude ». Et le registre a changé tout de suite. Et c'était en l'espace de deux mots, on avait toute la, je vous dirais, à la fois la profondeur et la qualité de la relation entre les deux.
Moi, j'aurais simplement une anecdote. J'ai connu Madeleine Ryan quand je travaillais à la conférence des évêques où on avait rassemblé des femmes pour discuter d'un sujet dont je me souviens pas. Et j'étais parmi les organisatrices parce que je travaillais à la conférence des évêques. Et Madeleine Ryan, au repas, on pouvait échanger. Et puis, vous savez, l'opinion qu'on avait de Claude Ryan, homme sévère, alors tout de suite, ça venait dans la conversation. Et Madeleine Ryan riait bien de ça. Elle a dit, il fait des choses que moi, je ferais jamais. Elle a dit, si vous le voyez le samedi quand il part avec les 5 enfants pour aller faire les courses chez Steinberg, elle a dit, moi, je ferais pas ça. Elle a dit, Claude Ryan fait ça. Claude, mon mari, fait ça tous les samedis. C'était vraiment, on voyait l'homme, là, tel qu'il était perçu par sa femme qui voyait pas rien qu'un intellectuel de haut vol, là.
Alors, ceux qui veulent d'autres anecdotes sur les Ryan, leur fils est derrière. Vous pouvez l'accaparer durant la pause. Merci à nos panélistes. C'était vraiment intéressant de vous écouter. Merci infiniment.